Classe Affaires reçoit avec Marie-Laure Stoutnia.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marie-Laure. Aujourd'hui, Classe Affaires reçoit Cécile Faye. Bonjour.
Bonjour Marie-Laure, merci pour l'invitation.
La santé mentale au travail est devenue une priorité pour les entreprises et les professionnels des ressources humaines, mais que recouvre-t-elle exactement? Pour en parler aujourd'hui avec nous, Cécile Faye, vous êtes présidente de l'association MAP, Médiation, Accompagnement, Parcours Professionnel. Dites-nous, Cécile, tout d'abord ce que fait MAP.
C'est une association qui a été créée en 2018 et qui s'appelait à l'époque l'Espace Emploi Agir Carco. Et depuis sa création, elle accompagne différents publics et majoritairement des personnes avec des problématiques de santé physique et ou psychique dans le retour à l'emploi. Et depuis quelques temps, nous sommes également ouverts aux interventions en entreprise.
Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend exactement par santé mentale ?
La santé mentale, en entreprise en tout cas, est une définition qui n'a pas réellement été posée officiellement, sauf erreur de ma part. Et donc, tout dépend de l'angle sous lequel on l'identifie. En ce qui me concerne, je le vois plutôt comme un baromètre, comme un indicateur d'un résultat de la rencontre entre l'environnement de travail et la capacité de chacun à y faire face.
Et y a-t-il une législation autour de ce thème ?
Il y a une législation, effectivement, dans le sens où l'employeur doit à tout prix faire attention à la santé de ses employés. Il y a toute la réglementation autour des risques psychosociaux. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'employeur a une vraie responsabilité sur le sujet.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on a pu identifier des causes de problèmes liés à la santé mentale ?
Oui, il y a des grandes causes qui ont été regroupées. Vous avez premièrement tout ce qui va toucher aux conditions de travail en tant que telles, la pénibilité, tout ce qui va être les qualités des conditions de travail. Ensuite, il y a tout ce qui va toucher l'organisation structurelle, comment la structure est organisée, comment elle fonctionne, avec toutes les conséquences après de précarité, de manque de moyens, etc. Et vous avez un sujet qui est fondamental, ce sont les relations interpersonnelles qui se dégradent tant verticales avec la hiérarchie qu'horizontale entre collègues, qui amènent depuis maintenant plusieurs années, on le constate, un délitement du collectif qui entraîne une baisse de l'entraide et de la collaboration. Et dernier point, donc il y a aussi tout ce qui touche au vécu, la perte de sens, la perte d'épanouissement, le manque d'épanouissement. Donc autant de causes qui amènent des risques au terme de la santé mentale.
Donc on est autant sur des causes liées à l'environnement du travail qu'au travail lui-même.
Oui, et aussi à la capacité de la personne de gérer ces situations.
D'accord, d'accord. Et alors, quels sont les symptômes qui vous alertent ?
Ce qui peut être inquiétant, ça va être déjà au niveau du salarié, tout ce qui va être la démotivation, le désengagement, la volonté de changer de poste, puis après même de changer d'entreprise, voire de métier. Et tout ce que l'on peut observer chez des salariés en termes de stress, d'anxiété, lorsqu'il y a une évocation d'insomnie, de burn-out, etc. Voilà, tous ces éléments qui doivent de suite alerter en fait un employeur.
Et alors, quelle est la conduite à tenir quand on est face à un collègue ou une collègue en souffrance ?
L'idéal dans ces cas-là, c'est déjà de ne pas laisser cette personne seule, de ne pas la laisser s'enfermer dans son isolement, de lui prêter une écoute attentive, si c'est possible, ou sinon de lui conseiller de se rapprocher d'une personne de confiance, c'est-à-dire peut-être le médecin du travail, peut-être le médecin traitant, peut-être aller voir un spécialiste comme un psychiatre ou après les professionnels de l'accompagnement comme les psychologues ou toutes les autres catégories de professionnels de l'accompagnement, en faisant toutefois attention aux charlatans. Et ça peut être, bien sûr, après, dans la sphère privée, familiale, amicale, que l'on peut trouver une oreille attentive pour déjà commencer à exprimer, ce qui permet déjà de faire un premier pas vers le mieux-être.
Et alors, une fois que la personne a pu exprimer, quels sont les types de solutions qui sont préconisées ?
Alors, les solutions sont, je dirais, aussi nombreuses qu'il existe d'entreprises. On est vraiment sur une problématique systémique et propre à chaque structure. Je pense, à mon sens, que les structures ne peuvent pas faire l'économie d'un audit, d'une enquête interne pour vraiment voir ce qui ressort, quels sont les troubles identifiés et essayer d'identifier donc les causes. Il est aussi très important d'informer les salariés sur la thématique de la santé mentale, surtout qu'aujourd'hui, on constate encore une croyance qui est encore là sur le côté santé mentale associée à la honte, à une forme supposée de fragilité, etc., ce qui n'est absolument pas le cas.
Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, quoi.
Exactement, exactement. C'est tout à fait la problématique où ceux qui disent oh, « ben, moi, je suis fort, donc je n'ai pas besoin d'aide », ça ne se joue pas du tout là-dessus. Donc, c'est leur expliquer ce qu'est la santé mentale, leur expliquer donc, les possibilités d'accompagnement qui s'offrent à eux, tant en interne qu'en externe. Et si possible, après, pour l'entreprise, d'identifier les personnes en vulnérabilité, celles qui, par exemple, vont être dans l'abnégation, celles qui vont être avec une exigence personnelle exacerbée, etc. Et puis, bien sûr, après, c'est agir sur les sources, forcément, et essayer d'agir tant en préventif qu'en curatif, bien sûr.
Classe Affaires reçoit.
Quelles sont les prestations qui peuvent être associées à l'aide à ces personnes, ou peut-être y en a-t-il aussi en collectif, ou sont-elles seulement en individuel?
Il y a plusieurs possibilités, je dirais, c'est comme les solutions en fait. Hein. C'est définitivement les actions vont être calées sur la situation. Par exemple, aujourd'hui, on observe un certain nombre de structures qui se lancent dans des initiatives bien-être, qui est une très bonne chose, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la limite de ces actions va tenir au fait que souvent, on ne se projette pas sur les conséquences réelles que l'on attend en fait de cette mission et sur un calibrage au plus près des besoins du terrain. Donc ça, ce sont vraiment les écueils principaux que l'on observe, qui veut dire qu'il faut qu'une action soit impérativement calée sur la réalité du terrain. Ça, je le répéterai jamais assez. Par exemple, si vous avez des personnes qui, je vais mettre en place des massages, proposer à mes salariés des massages une fois par semaine, c'est bien, parce que c'est toujours mieux que rien. Mais le problème, c'est que ça peut même avoir un effet contre-productif avec des salariés qui vont dire, oui, en gros, on nous propose ça sans trop se poser la vraie question de ce qui nous pose problème. Et au final, on se moque un petit peu de nous. Donc attention à cela. Les vraies actions qui peuvent être menées, c'est vraiment si on se rend compte qu'il y a un problème de procédure qui change trop souvent ou de charge, c'est autant que faire se peut, voir comment on peut redéfinir, comment on peut retravailler et surtout associer les salariés en fait à ces réflexions-là.
Donc vous avez des prestations qui concernent directement les directions d'entreprise. Et les managers.
On peut faire les deux, en fait. C'est-à-dire que, de toute façon, ce genre de problématique doit être pris dans les deux sens. C'est-à-dire ce que l'entreprise peut faire pour améliorer la santé mentale au travail et le salarié, comment lui, il peut travailler sur ses propres capacités, comment il peut identifier ses propres ressources, ses propres atouts, finalement, pour pouvoir être, plus à même de dépasser certaines problématiques qu'il peut rencontrer au travail.
Et à quel moment faire la différence, séparer la partie qui relève du médical de la partie qui relève de l'accompagnement professionnel?
C'est toute la difficulté parce qu'effectivement, la frontière entre psychologie et psychiatrie n'est pas évidente. Je dirais que ça relève vraiment de la compétence et du professionnalisme des personnes qui accompagnent, qui au bout d'un certain temps... Ça veut dire, non, là par contre, ça relève vraiment d'un besoin, d'un accompagnement plutôt par un psychiatre que par un psychologue.
D'accord. Et comment peut-on se repérer dans cette forêt d'intervenants et de compétences?
Alors là aussi, c'est assez compliqué parce qu'on trouve de plus en plus de professionnels spécialistes de telle approche, tel accompagnement, telle technique. Je dirais que déjà, un psychologue est une personne qui est formée avec un bac plus 5. Donc déjà, c'est quand même un gage de sérieux, de connaissances. Vous avez bien évidemment les psychiatres, ça va sans dire. Et après, au niveau des professionnels, je dirais de l'accompagnement, l'idéal, c'est déjà de passer par le bouche à oreille et aussi d'enquêter finalement sur Internet, autant que faire se peut, sur éventuellement la formation qu'a suivi la personne. Est-ce que c'est une formation sérieuse? Est-ce que ça a été une formation longue? Depuis combien de temps cette personne pratique? Voir aussi les avis. Des fois, c'est très intéressant, sauf s'il y en a très peu, auquel cas on peut se dire, bon, peut-être que les avis ont été posés par la famille et des amis. Mais voilà, c'est vraiment essayer de faire attention à ce type de professionnels-là. Après, sur le choix de la discipline, de la technique, c'est toujours compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, on est tellement tous différents que ce qui va convenir à l'un ne va pas convenir à l'autre. Donc en fait, la meilleure solution, c'est de tester.
Un message particulier quand on est face à cette problématique?
Oui, définitivement, ne pas rester seul, parler à une personne de confiance, comprendre que c'est temporaire aussi et qu'il y a des solutions, il y a des outils qui existent. Donc, plutôt on réagit quand on commence à se sentir en difficulté et mieux ce sera.
Cécile Faye, pour vous retrouver, comment fait-on?
Alors, malheureusement, notre site est en cours de construction. Par contre, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur la page de l'association MAP, M-A-2-P. Vous pouvez également nous joindre sur l'adresse toulouse@map-app-asso.fr. Et sinon, vous pouvez nous joindre au 06 19 51 08 78.
Merci Cécile Faye pour votre éclairage sur cette composante vraiment complexe de la santé, mais qui peut tant impacter notre vie en entreprise. Vous retrouverez Classe Affaires reçoit la semaine prochaine, comme tous les jeudis à 8h30. Au revoir Cécile.
Au revoir.
Au revoir à toutes et à tous. Et merci à la technique.
Formation, insertion, reconversion, Classe Affaires vous en dit plus.